Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 159e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 29 août. Nous allons vous parler des dernières sorties du mois d'août en VO et des grosses sorties. Il va y en avoir cette semaine puisque nous avons la fin de Trinity War chez DC ainsi que le retour de Batman Inc. dans un numéro spécial. En indé, nous avons le retour encore une fois d'American Vampire et puis le démarrage de Itty Bitty Hellboy. Enfin, chez Marvel, nous avons la fin de Thanos Rising, la suite de l'Event Infinity dans les pages de New Avengers ou encore beaucoup de réponses apportées dans Uncanny Avengers. En fin d'émission, nous aurons notre partie TPB comme chaque semaine. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Moi cette semaine pour parler de toutes ces nouvelles sorties, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Flo.
Bonsoir chers auditeurs.
Et Mister Anebony.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Sans perdre de temps, on va commencer par DC avec la fin de Trinity War dans les pages de Justice League numéro 23. C'est Mister Anebony qui va nous en parler.
Oui, alors la fin donc justement qui arrive assez vite finalement, on n'avait pas l'impression puisqu'on a tellement l'habitude des crossovers à allonge de Marvel ou qui durent des mois, là c'est déjà fini Trinity War, donc Jeff Jones est au scénario, Ivan Reis est au dessin, on va commencer par les dessins qui sont somptueux, moi je trouve que Ivan Reis est génial, voilà avec des splash pages absolument grandiloquentes, enfin c'est vraiment très très beau niveau dessin. Alors ensuite ce scénario, moi je suis de ceux qui n'ont pas du tout regardé les spoilers puisque je sais que Jeff Jones avait révélé un petit peu la fin de Trinity War. Je sais même pas exactement ce qu'il avait révélé en détail, s'il avait vraiment tout dit. Vous pouvez peut-être me le dire maintenant, vous qui aviez lu je crois tous les spoilers.
Mais il avait révélé qui était derrière et qui arrive à la fin.
Voilà, bon bah on va ça va être difficile de pas en parler, mais spoiler, on va essayer de faire sans spoiler. En tout cas, plusieurs choses. Donc déjà, tout le monde se dispute cette Trinity Box, cette Pandora Box. Décidément, lapsus révélateur. Cette Pandora Box et tout le monde devient un peu fou à son contact. Les alliés de toujours se retournent les uns contre les autres. Donc voilà, tout le monde se fout un peu sur la gueule. C'est une situation assez classique, on va dire, jusqu'à au fait la révélation de qui est derrière tout ça. Et qui est ce mystérieux individu donc qu'on voit depuis le début, vous savez qui ressemble à, je sais pas, il ressemblait un petit peu au Joker au début avec son chapeau melon, voilà. On a la révélation de qui est cet étrange personnage et d'ailleurs il l'appelle d'une certaine manière et à partir de là j'ai compris au fait de quoi il s'agissait. C'est un petit peu dommage parce que jusqu'à la dernière page, enfin je me suis pas dit ah mais c'est quand même mystérieux, qui c'est, etc. J'ai tout de suite compris au fait où il voulait en venir avec ça. Bon, cela dit, ça survient à la moitié du numéro donc c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je peux dire sans justement raconter l'histoire? Cette Pandora Box n'est peut-être pas justement ce qu'on croit qu'elle est. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que ça reprend vraiment le twist qu'on a pu avoir dans Justice League Dark il y a quelques mois de ça. Là, ça m'a un peu moins surpris. Je vais pas revenir dessus parce que sinon ça va spoiler la moitié de l'intrigue. Mais voilà, beaucoup de révélations, on comprend évidemment pourquoi on en arrive à Forever Evil après ça. Et il y a juste un truc en fait qui m'a vraiment saoulé à cette lecture, c'est que on aurait pu avoir tout ça, franchement on aurait pu avoir tout ça, sans Pandora, sans Phantom Stranger, sans The Question. Alors d'accord, c'était nous mener sur une fausse piste en quelque sorte, mais c'est vraiment des personnages qui au final ne servent à rien dans cette intrigue. Je trouve. C'est-à-dire que j'aurais pu lire cette histoire sans ces personnages-là. On aurait pu avoir exactement la même histoire, raconter la même chose, sans avoir recours à ces personnages. Et finalement, ces personnages sont inutiles. Et j'ai bien fait de ne pas lire leur série, par exemple, ne jamais lire Phantom Stranger, puisque ça n'apporte strictement rien. Voilà. L'intrigue reste inchangée, qu'on ait lu Phantom Stranger ou pas, et voilà, enfin, ça fait des années depuis le début des New 52 qu'ils nous disent ouais, ça va être le retour des personnages mystiques, et finalement j'ai l'impression que c'était du gros foutage de gueule, quoi, puisque
Sana, Pandora Box n'est pas, finalement pas si magique que en plus.
Oui, oui, enfin, justement, ça je voulais pas le dire, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, quand bien même, je veux dire, tout le côté mystique tombe complètement à plat et finalement,
pour nous induire en erreur, comme tu disais, mais
oui, non, mais bon,
à la rigueur, c'est vrai qu'elle a un rôle à jouer.
Je veux bien,
c'est la voix de Pandora. Mais c'est vrai que Phantom Stranger et Question, surtout Question en fait, qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe et qui sert à rien, est pas vraiment important.
Mais si je comprends bien l'histoire de nous induire en erreur, mais nous induire en erreur depuis le début pendant 2 ans, ils vont pas nous faire croire que c'était juste pour nous induire en erreur jusqu'à ce moment-là, quoi. C'est pas possible. On se sent un peu trompé, parce que les gens qui se sont intéressés à ces personnages, ils peuvent se dire, bon bah finalement, ça servait à rien que je m'intéresse à ces personnages-là, quoi.
Ouais, ils apportent normal, finalement rien. Ils ont vachement modifié peut-être leurs idées par rapport au départ. Enfin, et d'ailleurs, oui. dans le numéro, on a une splash page qui reprend la belle splash page du Free Comic Book Day, et on voit des choses qui sont différentes. Donc,
Superman notamment.
Superman, ouais. Des personnages comme Atom qui sont différents, enfin, des choses qu'ils ont modifiées et pourtant qui sont des éléments clés dans l'intrigue de Trinity War, ce qui montre que le scénar d'il y a un an a dû probablement beaucoup bouger. Bah, d'ailleurs, du non-succès de titres comme Phantom Stranger ou Pandora, quoi.
Il y a surtout un gros problème de continuité, je trouve, avec cette Pandora's Box, puisque comment peut-elle avoir atterri il y a des millions d'années sur Terre et que les personnages qui débarquent connaissent son existence?
C'est Age of Ultron.
Oui,
mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient
pas debout. Il y a un
côté. À la rigueur, si, ils peuvent expliquer que cette boîte de Pandore, qui émane de cet autre endroit, arrive ici, quoi. Mais
il y a un gros côté Age of Ultron de toute façon là-dedans, puisque au fait, depuis le début, on te donne un thème. Donc d'un côté c'était Ultron et là c'était les personnages mystiques. Et finalement, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec le Schmilblick, quoi. C'est totalement autre chose. Et puis surtout, oui, au début, j'ai pas compris, ils disent il y a eu un couac temporel ou je sais pas quoi avec l'attaque de Darkseid au début, quid de Flashpoint? Je comprends pas. Enfin, Pandora apparaît normalement durant Flashpoint, pas durant l'attaque de Darkseid.
Oui, non, mais c'était concernant l'arrivée de ce mystérieux mec, le problème de Darkseid.
Outsider.
D'accord. D'accord, d'accord. Ok, bon, bah, c'est bien d'apporter cette nuance, parce que j'ai pas compris ça comme ça. Enfin voilà, mais du coup, dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé, hein, la révélation finale tient debout, mais par contre j'ai l'impression qu'on nous a pris un petit peu pour des moutons pendant 2 ans.
Ouais, il y a de bons petits twists quand même, surtout concernant Cyborg par exemple, ça je l'ai pas vu venir. Heureusement qu'ils n'ont pas tout développé quand même.
Et pourtant, il y a des choses qui sont déjà dites dans des numéros avant, mais
ouais, il y a des indices, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Mais
non, moi non plus. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il se passe quand même beaucoup de choses, mais globalement, c'est quand même pour moi un bon numéro, une bonne conclusion d'event.
Hyper frustré parce que un event, ça se termine avec une fin. Ça se termine pas faut lire Forever Evil pour voir la fin, quoi.
C'est vrai.
Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage.
Dommage. Je veux dire, il se passe quand même des choses.
Mais oui, il y a quand même pas mal de choses.
Donc, évidemment, c'est pas une vraie fin d'event parce que c'est un event court et on savait qu'il y a Forever Evil derrière, mais ça me donne en tout cas envie de lire Forever Evil. Et je pense que c'était ce que vous l'avez dit ici.
Ce qui est dérangeant aussi, c'est qu'on nous avait promis la mort de la Justice League à la fin de Trinity War et ce ne sera pas le cas.
Oui,
ce sera dans Forever Evil. Non, mais enfin, disons-le clairement aux gens, n'achetez pas ce numéro si vous voulez voir la Justice League crever, quoi.
Oui, si vous êtes vraiment pas content contre DC, voir les héros mourir, c'est pas là encore.
Bah oui, non, mais c'est une petite tromperie sur la marchandise quand même. Parce qu'on nous a dit qu'au sortir de Trinity War, ce serait terminé. Et que les vilains auraient gagné, etc. Ce n'est pas le cas.
Ouais, c'est peut-être plus une figure de style dans ce cas-là, quoi.
Ah ben, ça avait été teasé comme ça déjà depuis plusieurs semaines qu'au sortir de Trinity War, c'était terminé, les vilains avaient gagné. C'est pas le cas du tout, quoi.
Ça se termine pas avec une scène post-générique, ça se termine avec un cliffhanger, quoi. Donc, c'est pas une fin d'event, mais c'est plus ouais, un c'est prologue vrai. En fait à Forever Evil quoi. Mais bon.
Apparemment, c'est donc la façon moderne, façon 2010, de faire des events, sans fin, des events qui ouvrent sur autre chose. Mm-hmm. Bon bah, on aimera ou on n'aimera pas. Je me classe dans la deuxième catégorie, perso.
Après, il y a eu effectivement un jeu qui est bien pensé. C'est sur le titre même Trinity War. Qu'est-ce que ça voulait dire au final? Là, on sait enfin ce que ça veut dire.
Ouais, alors...
Mais on pouvait imaginer plusieurs choses. On pouvait imaginer une guerre entre Batman, Superman, Wonder Woman, une guerre entre les trois Justice League, une guerre avec la Trinity of Evil, et finalement, c'est peut-être encore autre chose. Et je trouve ça plutôt bien pensé. Là, j'ai été agréablement surpris.
Alors, moi, j'ai pas du tout aimé, par contre, tu vois. Ça, vraiment, cette révélation de la Trinity Box, machin, ce que ça voulait dire, ce 3,
ouais,
je n'ai pas
tout
du
pourri.
Tout aimé. J'ai trouvé ça.
Mais je suis d'accord avec Steve.
Ça peut sembler un peu artificiel.
Déjà, non, de base, ils ont jamais appelé cet événement Trinity War entre eux. Et là, il y a Xanadu tout d'un coup qui se met à dire oh, Trinity, ça veut dire ça en fait, machin.
C'est comme les Zeroyeurs. C'est comme les Zeroyeurs qui sortent de partout.
C'est ça. Mais c'est ça. Franchement, j'ai trouvé ça tout pourri. À la rigueur, ils ont voulu faire les malins, mais j'ai pas trouvé ça intéressant. Et ça fait vraiment. Il faut absolument qu'on retombe sur nos pattes. Ça m'a un petit peu déçu.
Bah, ça donne un côté totalement rafistolé et qu'on a rajouté Forever Evil un peu... moi, vraiment, l'impression que ça me donne, c'est que c'était pas forcément le plan de départ.
Ouais, ça, je suis d'accord avec ça.
Et que Geoff Johns, du coup, a essayé de broder pour sortir une autre histoire, pour faire vendre un maximum, parce qu'on savait qu'en face, on avait des choses comme Infinity et que Infinity débutant vers la fin de Trinity War, ce qui était prévu sur le planning, DC s'est dit, merde, ils vont gagner pendant 6 mois? Non, quoi.
Après c'est bien brodé, mais c'est vraiment comme tu dis du brodage quoi. Et
après
voilà.
Je dis pas que ça tient pas la route, je dis juste que ouais. ça me donne cette sensation de rajouter un peu. C'était pas comme ça que c'était prévu au départ en tout cas.
Il y a quand même une belle blague aussi dans le comic, c'est l'apparition de Mera qui m'a fait mourir de rire.
Oui.
Comme elle était sur le poster du Free Comic Book Day, il la faut apparaître tout d'un coup. Puis t'as Aquaman qui fait ah qu'est-ce que tu fous là Mera, puis ah je vais te taper sur la gueule et tout. C'était trop nul quoi. Le personnage qui apparaît de nulle part.
Mais c'est pas Mera.
Quoi?
Moi j'ai pas l'impression que ce soit Mera.
Mais si
non,
c'est Mera.
C'est... Non je crois pas.
J'ai l'impression que c'est Element Woman qui s'est transformé,
ah,
c'est tout.
Oui.
J'ai regardé la page 3 fois et je me suis dit,
effectivement,
tu as
raison parce
que j'en suis arrivé. Mais
elle morphe son bras, mais tu sais, je l'ai lu et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Mera? Et effectivement, oui, t'as raison.
Je suis pas sûr, c'est qu'une hypothèse. Hein.
Si, parce qu'elle a son bras qui morphe façon Element Woman, mais du coup, c'est débile quoi. C'est juste pour avoir être raccord avec le FCBD quoi. Mais enfin bon, ça m'avait fait rire sur le moment.
Avez-vous une dernière chose à ajouter sur cette fin de Trinity War?
C'est très beau.
Bah pour résumer, c'est beau. L'histoire, je trouve, en elle-même tient la route. C'est pas pareil que ce qu'on nous avait teasé. C'est autre chose, c'est différent. On est surpris quelque part, même si parfois ça peut paraître un petit peu artificiel.
Ouais,
voilà.
Et puis moi, ça a augmenté mon intérêt pour Forever Evil parce que j'ai su à l'avance ce qui allait se passer. J'aime bien ça et ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont faire avec.
J'ai eu envie de détester Geoff Johns pour un peu faire un truc vraiment qui nous brouille, mais en même temps je peux pas, mon ressenti c'est vraiment je veux aller voir la suite, donc il a réussi à m'avoir quand même si évidemment il y a un côté mi-fig mi-raisin quoi, un peu amer.
Pareil pour moi, hein, je donne cette impression très négative parce qu'il y a 2-3 choses qui me gênent, mais dans l'ensemble je trouve que c'est un bon numéro. J'ai été surpris de la révélation de qui était ce mec au chapeau melon que l'on voyait depuis le départ là derrière cette fameuse Crime Society of Evil. Je m'attendais pas à ça en fait. Je voyais une toute autre direction prise. Je vais pas le dire là parce que sinon je spoil malheureusement. Je pensais que c'était l'autre pendant du personnage. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Peut-être pas.
Oui, moi aussi, j'avais d'autres théories.
On en discutera
plus,
en off justement. Ouais. Mais plus proche de l'image qu'on se faisait du personnage dès le départ et de la raison pour laquelle ces événements arrivaient. Bon, bref, c'est très flou, dit comme ça.
Il ressemble beaucoup à Grant Morrison, hein, c'est normal. Hein, tout le monde pensait que c'était Grant Morrison qui voulait tout détruire chez DC.
Finalement, donc, ce dernier numéro de Trinity War, ce Justice League 23, pour vous, ce sera plutôt bye, check it, ou pass?
Bye.
Bye aussi pour moi, quand même.
Benny?
Oui, un bail aussi, même si j'ai quand même l'impression que DC m'a pris un peu pour un idiot durant ces derniers mois. Mais en
oui,
tout cas, ça
mais...
augure de meilleures choses que ce que je pouvais
Ils connaissent
attendre.
bien.
Et aussi, je pense que j'ai de la chance de pas m'être spoilé il y a quelques semaines. Du coup, j'ai peut-être plus apprécié ma lecture.
Oh, pas forcément. Pas forcément, parce que même si on le savait, enfin, ça n'empêche pas que la lecture reste bonne, quoi.
Enfin, moi, j'ai apprécié le twist, quoi. Je veux dire, c'était au contraire, la signification du nombre 3 m'a bien plu.
Pour moi, ce sera un bail accompagné d'un tube de vaseline hein, pour faire plaisir à Benny, vu qu'il a la sensation qu'on l'a pris pour un idiot. Et on sait ce que ça veut
Ah
dire.
bah non mais attends, les idiots ne se font pas forcément. Enfin bon, si tu veux.
Passons à la suite, c'est le retour de Batman Inc. après la fin de la série. C'est un numéro spécial, Flo.
Oui, Batman Incorporated spécial numéro 1, c'est une anthologie. Ça coûte 5$, c'est un numéro oversized avec plein de petites histoires d'auteurs différents sur en fait les différents membres de Batman Inc. On a notamment du Chris Burnham qui écrit et dessine la première histoire, du Nathan Fairburn qui est son coloriste mais qui écrit et colorise une histoire dessinée par John Paul Leon. On a du Dan Didio et Ethan Van Siver et quelques autres.
Ça doit être la pire histoire celle-ci quand même.
La dernière.
Elle fait 3 pages.
Celle par Dan Didio et Ethan Van Siver.
Ah bah ça
non,
montre les talents
pages,
scénaristes de Dan Didio. Non,
elle
bon, c'est une histoire sur la Batco, vu que Batman passe en revue en gros tous les membres, les archives des membres de Batman Inc. Et dans ces archives, il y a le Batman japonais, etc. etc. Et il y a aussi la Batco, qui est
bah, c'est ce qui m'intéresse
membre,
le plus, tu vois.
Un membre,
sans
qui
avoir
est un membre
lu.
À part entière de Batman Inc.
Ouais.
Donc c'est très drôle. Pour moi, les deux meilleures histoires, les deux plus drôles, en tout cas, c'est celle de Chris Burnham sur une petite enquête du Batman japonais qui va
ouais,
enquêter
très
sur en trouvant dans son comic shop, enfin il a un magasin de manga, un distributeur de bonbons, sauf qu'à la place des bonbons et tout c'est des organes humains, et il va partir à la poursuite d'un vilain qui s'appelle le docteur Inside Out qui découpe des humains.
Le grand chirurgien du monde.
Non mais j'adore le nom. Le nom correspond tellement bien.
Voilà, c'est le plus grand chirurgien du monde. C'est très très drôle. C'est vraiment très sympa à lire. Ça paie pas de mine, hein, ça sert pas à grand chose. Les autres histoires sont un peu plus anecdotiques. J'étais un peu plus déçu. Et la fin, une petite histoire sans parole, évidemment, avec la Batco, est quand même très drôle parce que, comme quoi, même un animal peut être un héros sans être bien plus. Sans être beaucoup plus qu'un animal, finalement.
C'est tellement beau.
Donc voilà, tu l'as lu aussi, Bruno?
Ouais, bah, comme tu dis, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt sympathique. L'histoire du Batman japonais est aussi ma préférée. J'ai bien aimé celle-là quand même aussi avec Night Runner, il y avait pas mal d'humour. Voilà, mais franchement, ils se sont fait plaisir. C'est pas le numéro de l'année, hein, loin de là.
Une remarque et
non.
Une question. Ma première remarque, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on essaye de capitaliser un petit peu sur la marque Batman Inc., qui vient de se terminer, qui était quand même un succès, au moins critique. Et petite question, est-ce que ça donne des infos concernant ce qui se passe pour certains membres de cette Batman Incorporated, Corporation, Incorporate mes couilles, sur ce qui se passe après, justement, la fin de cette histoire de Batman Inc. de Grant Morrison?
Bah en fait, l'histoire, c'est un petit peu après, justement, la
ouais.
fin de Batman Inc. Batman qui passe en revue les archives vidéo de tout ça. Et voilà, le
et
tout début
à la
et la
fin,
toute fin,
il doit
la première et dernière
si,
page, c'est ça.
Si oui ou non, il doit arrêter Batman Inc., en fait.
D'accord, oui. Donc
il appuie
la réponse
sur un
est
bouton
à la fin.
Annulé et la réponse est à la fin. Donc vous verrez s'il annule ou pas Batman Inc.
D'accord, donc oui, pas de... En fait, en gros, même si c'est censé se passer après, on n'a que des flashbacks.
Pas que, parce qu'il y a quand même des histoires avec
non,
Night qui se passent après, ouais. Mais voilà, enfin,
qui se passe après, mais enfin, ils essaient de brouiller les pistes, mais bon, faut pas en attendre grand-chose. Hein.
Franchement, c'est
quand on verra,
c'est
mais
pas terrible, quoi. Enfin,
très
ça
bien.
Va, quoi. Un check-it, moi, tout petit check-it.
Oui, c'est un check-it parce qu'il y a quand même deux histoires petites, un peu sympas, mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré garder juste les bonnes histoires et en faire un numéro à 4$, quoi.
Ouais, bah, c'est peut-être mieux que de nous en faire une mini.
Oui.
Moi, j'ai juste envie de dire, oh la vache.
Non, mais...
Bien, passons à la suite donc. Batman Superman numéro 3 qui est sorti cette semaine. Bruno.
Ouais, donc c'est Greg Pak au scénario, Jelly au dessin pour une partie et Yildiray Sinar pour une autre qui concerne des flashbacks. C'est lent, hein. C'était pas mal au début, mais là ça devient un petit peu lent. On est sur la Terre 2, on a ce fameux méchant qui est le Trickster, qui vient d'Apocalypse, qui s'en prend un petit peu à tous les personnages qu'on a vus depuis les deux premiers numéros, à savoir les incarnations de Superman et de Batman à la fois de la Terre 1 et de la Terre 2.
Sauf que c'est ceux de la Terre 1 du passé, rappelons-le. Hein,
voilà, c'est
pour
ça.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi la série.
Donc c'est de la baston, il y a Wonder Woman qui vient, qui réplique et qui donne un coup de main aux trois autres. Ça avance un petit peu au niveau du scénario. On a des bribes sur Darkseid et tout qui nous préviennent de sa peut-être future invasion des différents univers. Ça vaut surtout ce numéro pour la partie par Sinar, en fait, qui revient sur l'enfance de Bruce et de Clark sur la Terre 2. En fait, ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants, et un bon petit flashback que j'ai trouvé assez touchant et plutôt bien dessiné. La partie de Jelly, c'est beau pour les personnages, mais alors là, c'est vraiment de plus en plus flagrant. Les décors sont de vide en vide, donc le mec, il doit galérer pour ses titres, et donc il lui faut des décors tout en vide.
Ah, tu me rassures, putain.
Ça allait bien sur les deux premiers numéros, mais là, en plus, voilà, le scénario, franchement, il, je trouve qu'il patine, et il y a un twist à la fin avec une arme secrète. J'ai trouvé ça un peu relou. Donc, je sais pas qui d'autre l'a lu.
Benny.
Oui, alors effectivement, vraiment comme Bruno là, pour une fois. Donc, il me rassure énormément de ce qu'il a dit. Un scénario qui est pas très transcendant, qui traîne un peu en longueur, qui est assez classique finalement pour une rencontre entre Superman et Batman. Et puis ces scènes de flashback intéressantes, mais alors, au fait, il utilise une scène qui avait déjà été montrée par Jeff Loeb et Tim Sale, je crois.
Exactement. Ouais.
Et il l'allonge, au fait. Il montre la suite de cette scène. Il va plus loin, à tel point que là, voir Alfred et Jonathan Kent en train de discuter ensemble. Enfin, je veux bien croire aux coïncidences, hein. Mais là, c'est
la Terre 2.
Oui.
C'est ceux de la Terre 2. Ça ne s'est pas passé comme ça pour le Batman et le Superman de Terre 1, ceux que l'on connaît, quoi.
Ouais.
Enfin, Terre 0, ouais. En fait, parce que. Mm.
Mais enfin, c'est quand même une sacrée coïncidence, néanmoins. Bon, enfin, bon, allons-y, quoi, acceptons. Un numéro qui vaut essentiellement pour les flashbacks, mais même si ces flashbacks sont pas entièrement nouveaux, quoi. En fait, il a rajouté un petit peu à des choses qu'on avait déjà vues auparavant. Franchement, j'ai envie de dire...
Attends, oui, avant de donner la note, oui. Je vais donner mon avis, parce que j'ai pas du tout le même avis que vous, en fait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je ne trouve pas que ça traîne en longueur, au contraire, vu qu'on a ce flashback qui prend, on va dire, un bon tiers du numéro, donc on n'a que deux tiers de numéro pour faire avancer l'histoire, et l'histoire avance, et on forge les liens qu'il va y avoir ensuite entre Batman et Superman sur la Terre 0. Moi je trouve que ça suit vraiment bien son cours. On nous explique cette espèce de pseudo-arme. Bon, à voir, je pense... avoir une idée de ce à quoi elle servira. Sûrement pas sur Terre 1, puisqu'on a vu déjà le résultat. Donc peut-être sur Terre 2, justement. Et donc, ce qui expliquerait la mort, rappelons que sur Terre 2, Batman, Superman et Wonder Woman n'ont pas survécu.
Oui.
Ce qu'on nous avait appris dès le début de la série Earth 2 de James Robinson. Donc je sais pas, moi j'accroche toujours autant, et j'aime vraiment le dessin de Jelly.
Je peux me permettre de dire toujours juste un petit mot, parce que j'ai pas fini de le lire, en fait. C'est pour ça que je me suis permis de pas y participer à cette review. Mais, c'est vrai que. Non, juste un mot, mais c'est vraiment très très bien pour moi. Hein. Je comprends pas trop l'avis de Bruno, mais le numéro 1 était vraiment pas mal. Le numéro 2 est monté en puissance et le début du numéro 3 est plutôt cool. Ça suit vraiment bien son cours. L'histoire est prenante. Je pensais pas être pris dans un pitch pareil avec des terres 2, etc. Des trucs qui voyagent dans d'autres terres. Mais je trouve ça vraiment très bien. Voilà.
Mais
fin de ma pause.
Je suis un peu comme toi, Flo, puisque moi c'est pareil. Au départ, quand on m'avait dit la série Batman Superman, je me suis dit encore, c'est vraiment pour capitaliser sur deux noms. Ensuite, on nous avait dit que ce serait les Batman et Superman du passé, alors là, ça me faisait encore plus chier. Et finalement, je suis vraiment plongé dans cette histoire, et j'attends de voir la fin avec une assez grande impatience, finalement. Comme
ouais,
quoi
le storytelling de Greg Pak est efficace. Enfin, c'est un mec qui est vraiment
Ouais, c'est un peu pète-couille quand même, les différentes cases de couleurs, là. Parfois, on s'y perd, mais...
Bah, en même temps, c'est du jelly. Soit tu accroches, soit tu accroches pas, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Et là, Greg Pak a vraiment essayé de laisser la part belle au dessin de Jelly. On l'a mis sur cette histoire, et c'est principalement pour ça aussi. Donc finalement, on va donner les notes maintenant pour de bon, cette fois-ci. Bruno Bunny, j'imagine que ce sera de l'ordre du check-it.
Ouais, check-it. Ouais, check-it, ouais. C'est pas pourri, hein, mais voilà, c'est un peu lent.
Et Flo et moi, même si tu l'as pas lu en entier, tu peux quand même donner ta note.
Pour moi, c'est toujours un bail.
Ouais, pareil. Voilà, deux check-it, deux bails.
Une bonne série.
Voilà, des avis qui divergent un petit peu, bah, n'hésitez pas à vous faire votre opinion et aller voir ce titre.
En tout cas, ça change.
Oui, c'est clair. C'est clair. Là,
n'hésitez
au moins,
pas à le laisser en rayon, si vous êtes de mon avis.
Non, mais oui, non, mais clairement, voilà, justement, c'est aussi fait pour ça, les Comics Weekly, c'est pour que les gens puissent avoir une idée de ce que l'on en pense et d'aller voir ou non les produits qui les intéressent ou qui pourraient les intéresser. Passons à la suite, on va passer à l'univers de Green Lantern, ou plutôt de Orange Lantern, puisque c'est la sortie du troisième numéro de Larfleeze, scénarisé toujours par Keith Giffen et J.M. DeMatteis. Qui est aussi Keith Giffen, pardon, qui est aussi au breakdowns, enfin au premier trait.
Belzins breakdown.
Les layouts,
voilà. je ne trouve pas les esquisses, voilà, peut-être le mot français qui pourrait esquisses. Correspondre le mieux. C'est Scott Collins, bien sûr, qui termine la partie graphique. Alors c'est un numéro complètement fou qui sera mon coup de cœur de la semaine parce qu'il m'a fait passer un bon moment finalement.
Carrément.
Ouais, je me suis bien marré à cette lecture. On va en apprendre plus sur cette espèce d'être bleu que l'on voyait, qui s'appelle le Wanderer, et qui débarquait à la fin du dernier épisode, un peu une sorte de Deus Ex Machina, pour sauver ce petit serviteur qui pour le moment passe son temps à essayer de juste sauver sa peau en plantant le plus de couteaux dans le dos possible à toutes les personnes qui l'a autour. Et qui, voilà, nous faisait revenir Larfleeze, un Larfleeze complètement dans les vapes. Et on va apprendre que ce Wanderer avait en fait acheté ce butler, l'avait payé pour lui, et en fait Larfleeze l'a kidnappé juste avant qu'elle puisse récupérer son nouveau serviteur. Maintenant que c'est chose faite, eh bien, elle veut tout simplement le prendre à son service, hein, tel que quelque chose devrait être, ce qu'il s'empresse d'accepter tout de suite, hein, puisqu'on lui propose de voyager dans les étoiles et d'aider le Wanderer à se repérer dans notre univers, puisqu'on comprend d'où elle vient et comment elle est arrivée dans notre univers, jusqu'à ce qu'il apprenne que, en fait, vu qu'il va falloir qu'il l'habille, hein, tous les matins, qu'il lui fasse prendre son bain, etc., eh bien, bah, pour éviter des petits problèmes, elle va l'émasculer. Et ça, il veut pas. Et donc, il va s'empresser de réveiller Larfleeze. Larfleeze qui, donc, n'est pas content d'avoir, d'une, été battu, deux, qu'on essaie de lui piquer son petit serviteur, et donc, il va essayer de tout péter. Et ça explose de tous les côtés, avec des idées complètement folles, et un retournement de situation finale. Rappelez-vous, le pouvoir de Larfleeze, c'est de naître seul, finalement, et d'utiliser les gens qu'il a tués en forme spirituelle, enfin en forme de fantôme, sous son forme, enfin dans son corps de Green Lantern, enfin d'Orange Lantern plutôt. Je ne sais pas si je suis très clair. Il utilise
en
fait les fantômes des gens qu'il a tués.
De ses victimes, ça devient son corps en fait, les membres de son corps.
Voilà, c'est ça.
Créé par sa bague.
Voilà, toutes les gens qu'il a tués, il les a récupérés comme ça à son service. Eh bien, ces choses-là vont se retourner contre lui d'une manière vraiment, vraiment super sympa. Donc, j'ai vraiment hâte de lire la suite et je m'attendais à rien de ce titre. J'avais peur que ce soit une grosse daube et je suis vraiment surpris. C'est un bon moment de fun. C'est vraiment, voilà, c'est du gros fun, un peu dans l'esprit de la série FF chez Marvel, quelque chose de totalement délirant comme ça, où ça pète de partout, on a des répliques complètement folles et des situations complètement folles avec des univers parallèles, de destruction de monde, d'univers, voire pourquoi pas quoi, allons-y gaiement. Donc, moi j'ai envie de dire un bail parce que ça reste vraiment, ça reste fun quoi. Faut vraiment le prendre comme quelque chose de pas sérieux et à ce moment-là ça passe très bien. On va terminer notre partie d'essai avec du Batman, encore. Il n'y a que lui chez DC. C'est Mr. Honeybunny qui va nous parler de Batman The Dark Knight numéro 23.
Avec Greg Hurwitz au scénario et Alex Maleev au dessin. Donc, au fait, là, c'est Batman face à Clayface. Alors, on va dire encore Clayface. Et justement, Greg Hurwitz est très fort pour écrire les super vilains de Batman, car je trouve que récemment, on a eu donc Scott Snyder, on a eu John Neyman aussi, qui a utilisé Clayface. et j'ai trouvé leurs histoires pour ce personnage assez faiblardes ou en tout cas pas aussi fun que celle-là. Greg Hurwitz c'est vraiment très très fort pour utiliser donc les super vilains. Et donc non seulement c'est une histoire, on va dire assez fun de Batman, avec ce qu'il faut de côté un peu sombre et d'intrigue un petit peu tortueuse. Et y a quand même pas mal de scènes qui m'ont fait beaucoup rire, notamment une, enfin deux d'ailleurs. Il y en a une avec le pingouin qui se réveille, Batman le tire un petit peu de son sommeil et le pingouin saisit un parapluie pour tirer sur Batman et c'est un bouquet de fleurs qui en sort. Et Batman lui dit oui j'ai pensé à trafiquer ton parapluie pendant que tu pionçais. Et puis il y en a une autre aussi qui est très drôle, où t'as le commissaire Gordon qui appelle Batman avec le signal. Et t'as Batman qui arrive et qui fout une grosse baffe au commissaire Gordon et il dit oui juste pour vérifier que ce soit pas gueule d'argile quoi. Et tu sais il fait ça d'une manière mais super stoïque et tout et je trouvais ça à mourir de rire. Donc voilà
donc. Tu vas nous spoiler les deux trucs drôles de l'épisode.
Y a oui mais non parce que faut vraiment les voir. C'est il y a 50% des dessins d'Alex Maleev qui sont enfin c'est super drôle et il arrive même à rendre Clayface aussi très très drôle dans ses dessins. Donc voilà.
Est-ce que les
c'est
dessins
pas une...
de Maleev sont bons? Parce qu'on le sentait peu en forme et utilisant moins l'infographie et plus avec son trait et un trait un peu.
Bah écoute, moi je le trouve pas mal. En tout cas, là, il s'est bien adapté à Clayface et à cette à ce récit, je trouve que ça colle bien. Mais enfin globalement ce que je veux dire c'est que c'est pas une histoire qui va révolutionner le monde de Batman comme on peut le voir avec Snyder sur Zero Year. Pas
ouais,
du tout.
Révolutionner, c'est un bien grand mot.
Oui, non, enfin, ça n'a pas cette ambition en tout cas, quoi. C'est juste une histoire, on peut ne pas la lire, on ne ratera strictement rien. C'est juste que, voilà, c'est juste une bonne histoire de Batman, sympathique, et je trouve que c'est vraiment un titre qui, peut-être, auquel on ne prête pas vraiment attention, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs sur Batman actuellement. Voilà.
Tu préfères donc, Detective Comics actuellement?
Bah écoute oui, j'ai été très déçu pour le moment de ce que John Layman a fait sur les quelques numéros que j'ai lus, c'était pas vraiment pas du niveau de ce qu'il peut proposer sur un chou. En même temps bon c'est très différent d'accord mais voilà là je préfère nettement la manière d'Hurwitz d'aborder l'univers du Cape Crusader.
Tu m'as donné envie donc c'est un nouvel arc avec Maleev au dessin donc c'est un début d'arc là.
Alors non là c'est la fin justement de cet arc avec Clayface qui a dû faire deux numéros je crois hein. c'est vraiment un arc très court voilà mais en tout cas je te conseille vivement ce qu'il avait fait aussi l'arc avec Scarecrow et qui était vraiment excellent pour moi l'une des meilleures histoires de Batman de ces dernières années voilà donc un bon bail. Un baïonnette, comme voilà ça fait longtemps que je l'ai pas sorti celle-là.
Et justement c'est peut-être dans les séries que l'on attend le moins où l'on trouve les choses les plus intéressantes, hein, ce que l'on peut voir aussi chez Marvel actuellement. Peut-être une mouvance du comics en général. On va passer maintenant à notre partie indé avec le retour d'American Vampire pour quelque chose qui s'appelle American Vampire Anthology. Voilà, Flo, tu vas nous présenter les 12 millions de personnes qui y ont participé.
Oui, donc c'est un gros one-shot de $8 qui fait 80 pages. C'est pour faire un fixe pour les fans d'American Vampire comme moi qui attendent avec impatience la reprise d'ici, je pense, le début 2014 ou toute fin 2013 de la série. Donc c'est plein de petites histoires de quelques pages. On a notamment des histoires de Scott Snyder, de Becky Cloonan, de Jeff Lemire, de Francesco Francavilla, dessiné par Francesco Francavilla, de Gabriel Ba et Fabio Moon, de Greg Rucka, de Gail Simon, et je crois qu'on y est. Jason Aaron. Donc voilà, il y a à boire et à manger, je dirais, dans ces histoires. L'essentiel, enfin les histoires ne compte pas dans la continuité d'American Vampire, c'est des choses qui peuvent se passer souvent avant, d'ailleurs ça peut se passer dans le passé, au 19e siècle, etc. Mais il y a quand même des petites perles, je trouve. C'est déjà marrant de voir des auteurs travailler sur le matériel de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque. J'ai été particulièrement un petit peu déçu par l'histoire de Jason Aaron, qui c'est marrant parce que ça se passe au XVIe siècle avec des Indiens, des Amérindiens, qui sont face à une première installation de vampires européens hein, qui s'installent.
Le pauvre, il va pas en sortir de ça.
J'étais un petit peu déçu de cette histoire qui est un peu convenue. En revanche, il y a des choses très très bien. Bon, il y a un truc pas mal avec une histoire de Jeff Lemire et dessinée par Ray Fox. Je connaissais pas le dessin de Ray Fox et il dessine plutôt pas mal. C'est assez esquissé, mais c'est vraiment sympa. Sur le Canadian Vampire, donc c'est pas mal. Qui est assez sympa.
J'ai envie de dire comme par hasard là encore. Bah on oui, les a vraiment voilà. mis, enfin voilà, on a mis Jason Aaron sur de l'Amérindien parce qu'il a fait Scalp, on met Jeff Lemire et Ray Fox parce qu'ils sont canadiens.
À mon avis, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient.
Ah oui, oui,
mais
non,
bon,
mais
voilà,
c'est juste que ça fait presque cliché en fait. C'est pas pour autant que c'est pas bien. Être cliché, ça peut être très sympathique aussi, mais ça donne cette impression cliché quand on les a pas lus en tout cas.
C'est vrai. Bon, il y a des choses très bien. L'histoire de Gabriel Ba et Fabio Moon est très sympa parce que c'est des petites histoires courtes.
Est-ce que c'est des vampires brésiliens?
Non. C'est pas des vampires brésiliens, mais c'est Gabriel Ba et Fabio Moon, c'est une histoire très courte, mais juste avec un petit twist à la fin. Voilà, c'est ce qu'il faut pour une petite histoire de 4, 5, 6 pages, quoi. Donc c'est ça, vraiment très bien. Francesco Francavilla fait une très très bonne histoire aussi, qui est en fait un préquel au premier arc, si vous vous souvenez du premier arc d'American Vampire, sur les plateaux de tournage avec Pearl, qui est une apprentie comédienne. L'histoire s'appelle The Producers. Et c'est un préquel en fait à ça, et ça nous explique un petit peu comment du pourquoi de certaines choses du premier arc. Donc c'est assez sympa. Une histoire de Greg Rucka qui se passe dans les années 40, qui est pas mal. Et on retrouve évidemment, Skinner Sweet dans plusieurs histoires. On retrouve aussi l'ancien ami de Pearl qui a tourné Vampire, notamment dans l'histoire de Gail Simon. Il y a à boire et à manger, mais c'est vraiment sympa. C'est plutôt très joli. Voilà. Pour les fans, c'est un bail. Pour ceux qui aiment cette série, c'est un bail parce que ça fait vraiment plaisir de voir des auteurs travailler là-dessus.
Puis apparemment, ça répond à quelques questions aussi.
Oui, oui. Bon, c'est pas grand-chose. C'est pas des questions vraiment qu'on se posait, mais c'est toujours sympa. Ça fait un peu de fanservice, si on veut. Mm-hmm. Ça fait un petit peu de fanservice. Mais voilà, c'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est plutôt très bien dessiné, plutôt bien écrit à chaque fois, donc pour moi ça vaut le coup, $8 les 80 pages, c'est un petit plaisir pour les fans d'American Vampire en attendant la suite, donc pour moi c'est un bail.
Flo qui est décidément abonné aux anthologies cette semaine, et oui. Pour reprendre ce que tu disais, il y a à boire et à manger, c'est très pratique quand t'es vampire puisque boire c'est manger, voilà, j'avais envie de la placer mais j'ai pas eu le temps. Passons à toi Bruno qui va nous parler d'une sortie chez Aspen, ça s'appelle Overtaken, c'est le numéro 1.
Oui, alors donc le point important c'est que ça vaut $1, donc c'est pas cher, comme tous les numéros 1 Aspen là, pour cette année. C'est scénarisé par Frank Mastromoro et dessiné par Marco Lorenzana. Overtaken, ça parle d'une famille qui vient s'installer dans un petit bled américain et ils se font enlever, voilà. Enfin, en tout cas, un des personnages se fait enlever par des extraterrestres.
C'est le nom tellement du comics. De fois qu'ils sont overtaken, quoi.
Voilà, ils se sont fait overtaken. Et c'est, en fait, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est pas très beau, déjà. Ça commence avec une scène
sans
qui
blague.
Se passe sur une planète avec des aliens avec des designs complètement pourris. On dirait les aliens de Lord of Mars ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu pourri. C'est pas très beau. Les dialogues sont juste tout pourris. Ils essayent de faire de l'humour. Les deux personnages principaux sont un petit couple qui viennent s'installer à la campagne. Ils font des blagues de très mauvais goût sur Lance Armstrong, par exemple. Je trouve ça un peu bizarre.
Il est détesté maintenant aux États-Unis. Hein.
Ouais, mais il y a. Enfin, franchement, ça passe à côté. C'est pas du tout original. C'est moche. Enfin, franchement, c'est moche, quoi. Voilà, ça vaut $1, donc à rigueur, vous pouvez jeter un œil, en prendre le premier numéro, voilà, c'est un numéro 1, mais franchement, j'attends rien du tout de la suite de cette série, et pour moi, c'est vraiment un gros pass, quoi.
Ça vaut donc $1, et c'est le juste prix, apparemment. T'aurais peut-être dû aller lire le All New Fandom numéro 2, vu que t'avais beaucoup aimé le premier, et qu'il
oui,
est sorti
oui,
cette
bah,
semaine.
Oui, carrément, mais bon, j'ai voulu tenter...
Mais il aime bien lire des merdes, une fois de temps en temps.
C'est fameux numéro 1. Mais non, mais c'est pour, pour donner... envie ou pas aux gens.
C'est pour donner du sel. Au moins, ce qui est bien, tu le trouves vachement mieux ensuite, quoi.
Ah ouais, bah non, mais c'est clair. Mais c'est vraiment pas terrible, quoi.
Très bien, voilà. On passe à la suite. On va chez Dark Horse maintenant avec le début d'une mini en 5. C'est Itty Bitty Hellboy, scénarisé par Ad Balthazar et Franco, dessiné par Ad Balthazar, pardon, qui dessine. Franco n'est juste que scénariste. Et c'est encore une anthologie en quelque sorte, puisque c'est plein de petites histoires à la méthode d'Art Balthazar et Franco sur l'univers de Hellboy avec des enfants cette fois-ci, hein. La même chose qu'on avait eu dans les Tiny Titans, on réapplique le concept à Hellboy, donc on a des versions kids un peu façon Peanuts de tout l'univers d'Hellboy, c'est-à-dire Hellboy et toute sa clique de gentils, mais aussi les méchants. Et c'est un combat de forteresse. Voilà, oui. On se fait des
cartons.
Voilà, on se fait des petites cabanes dans des cartons et les deux gangs s'affrontent pour avoir le meilleur fort. Je vais pas pouvoir en dire plus malheureusement au risque de spoiler les gags. Donc voilà, mais ça reste très sympa. Flo, Bruno, vous l'avez lu aussi ?
Moi, je trouvais ça très rigolo. Je suis pas du tout habitué à Arte Franco, à part sur The Green Team que je lis, mais c'est les premiers trucs que je lisais d'eux. C'est vraiment rigolo à voir. C'est enfantin et en même temps, parfois, il y a des petits pics un peu cyniques, etc., qui sont un peu sarcastiques, qui sont un petit peu plus adultes, et du coup, c'est assez sympa, quoi.
Bah, si t'as aimé ça, moi, je t'encourage vraiment, vraiment fortement à aller lire les Tiny Titans. C'est exactement pareil, et avec en plus des grosses vannes pour les fans de comics, quoi. Il y a plein de références à l'univers comics en général, et aux crises de décès, ce genre de trucs, qui les tournent en dérision, finalement.
Mais là, c'est marrant, les références à l'univers d'Hellboy sont marrants. Il utilise bien les personnages de l'univers d'Hellboy, notamment il y a Roger qui l'utilise de façon marrante avec son slip. En fait, c'est sa ceinture avec son cadenas là, qu'on voit dans Hellboy. c'est son slip de bain, en fait. C'est assez drôle. Il y a, comment il s'appelle, le mec où c'est un gaz, là
J'ai oublié son nom, mais l'Allemand.
L'Allemand, voilà.
Helmut.
Pareil, il y a des gags, man, aussi là-dessus avec le fait qu'il soit un gaz, etc. Donc il y a des choses vraiment très drôles.
Moi j'ai trouvé ça tout pourri, mais non, sans déconner. Je vois pas l'intérêt du titre parce que c'est comme s'il faisait une version pour enfants de Walking Dead. Parce que pour apprécier les références, faut avoir lu Hellboy. Donc les gamins qui lisent Hellboy, j'en connais pas 50 000.
Ah, pas forcément. Ah non, je suis pas d'accord.
Moi je connais pas trop l'univers d'Hellboy et j'ai pas trouvé ça drôle du tout. À part moi j'avais vu les films, mais il y a pas mal de persos que je connaissais pas et du coup je suis arrivé là-dessus, je pensais voir des gags et au final c'était beaucoup de références aux comics. Et après quand t'es adulte, parfois ça passe les Tiny Titans et puis Superman Adventure, c'était sympa parce que je connaissais les références, mais là vraiment je suis passé à côté et j'ai du mal à trouver quelle va être la cible de ce titre. Et voilà, puis là je suis en train de lire un autre comics qui s'appelle J-Man, qui lui est vraiment
J-Man, c'est très très bon, par Chris Garrison.
Très très bon et qui lui peut vraiment toucher les enfants et qui traite de thèmes plus connus, hein, de super-héros, mais
qui touche les enfants à part Nono.
Du coup je suis passé de J-Man à ITBT Hellboy et j'ai trouvé le titre moins intéressant. Mais voilà, mais après quand vous deux vous connaissez plus Hellboy et du coup ça a dû plus vous faire rigoler, quoi.
Oh, mais tu n'as pas d'âme, Bruno, c'est tout. Voilà. Tu as perdu ton âme d'enfant. De toute façon, tu n'avais pas aimé Pet Avengers déjà.
Non, Pet Avengers, c'est pas mal.
Ah, mais tu sais, le AVX version Pet, tu n'avais pas aimé non plus. Et donc,
ah oui,
forcément...
non, le truc avec les babies aussi, j'avais pas aimé.
Pardon, avec les pets, je me plante. Je dis, AVX babies, tu n'avais pas aimé non plus. Et
c'est
voilà.
Vrai. J'avais pas trouvé
ça. Mais parce que AVX version P, c'est le AVX qu'on a eu en totalité.
non, c'était le What If AVX.
C'était version diarrhée.
La version diarrhée, c'était le What If AVX. C'est pas terrible, quoi. Et puis vraiment, je comprends pas l'intérêt de faire un titre Hellboy pour les enfants. Enfin, bon.
Mais ce n'est pas que pour les enfants, justement. Et ça peut les initier à l'univers d'Hellboy. Enfin, tu lis ça, tu montres ça à tes enfants, ils peuvent avoir envie d'en découvrir plus sur le personnage. Et après, se tourner vers, par exemple, peut-être Hellboy Animated, qui était aussi dirigé pour un public un peu plus jeune. Et puis ensuite, aller voir le Hellboy classique. Moi, ce qui me gêne, c'est juste que ce soit une mini en 5, c'est peut-être un peu long, honnêtement. Est-ce que j'ai envie de lire 5 numéros comme ça? Je sais pas. Allez voir un deuxième, sûr. Est-ce qu'au bout de 5, je serais pas un peu...
Moi, j'attends la version pour enfants de Crost. Voilà.
Mais il y a des choses qui s'y prêtent ou pas, quoi. je sais pas ton avis là-dessus, Flo.
Non, c'est vrai qu'après réflexion, c'est vrai qu'il y a des références que peut-être on n'aurait pas pu comprendre si tu connaissais pas Hellboy. Ceci dit, ça reste quand même des trucs très simplistes et très visuels, qui fait que un gamin qui lit ça, il va trouver ça rigolo. Attends, il y a une petite bête rouge avec un gros point, il comprend qu'il y a des méchants dans un carton des méchants dans un autre carton et des gentils avec dans un autre carton qui ont une piscine.
C'est la guerre des cartons.
C'est la guerre des cartons. Mais non, mais c'est rigolo. Je pense que les enfants trouvaient ça quand même marrant parce que ça reste simple. Tu vois, évidemment, le gamin, il va pas se dire, oui, c'est quoi la référence à quel épisode de Hellboy ou je sais pas quoi. il s'en fout, il va voir un truc visuel et les gags restent quand même visuels, donc ça va.
Puis je crois que contrairement à nous, les enfants s'en foutent de savoir d'où viennent les personnages et qui ils sont. Ils les prennent pour ce que c'est.
Ah oui, ils s'en foutent.
Ils réfléchissent pas, voilà, ils voient un mec et un gaz, bah ça les fait marrer parce que le mec c'est un prout géant quoi. Voilà.
Et après il le fourre de bouffe dans sa combinaison quoi.
Oui,
en plus
voilà.
En plus Arte Franco l'explique dans le truc quoi. Oui. Là t'es un prout, t'as une combinaison pour que toi, en tant que gaz, tu restes dans une forme humaine, et puis il le fourre de bouffe pour lui donner à manger, c'est assez drôle, quoi. Ce gag-là, il m'a fait vraiment très très rire.
Non, mais il y avait le même personnage dans les All New X-Men de Morrison, d'ailleurs.
Oui.
Il y avait le mutant qui était un P, quoi, qui était dans une combinaison.
Oui, bah ça devait être un hommage à Hellboy, je pense.
C'est possible.
Et je crois qu'il a crevé.
Il a pété.
Voilà. Oui, ou pété, oui.
Donc finalement, ta note, Bruno ?
Ouais, passe.
Passe, Flo ?
Moi, ouais, c'est un bon check-it, c'est rigolo.
Pareil, ce sera un check-it, je suis pas sûr que ça justifie un bail. Peut-être plus dans un format TPB, quoi, si c'est pas trop trop cher. Passons à la suite, on passe chez Image maintenant, c'est Bruno qui va nous parler du numéro 6 de Sex, qui comme bien sûr, il l'a lu, ça s'appelle Sex, c'est pour Bruno.
C'est écrit par Joe Casey et c'est dessiné par Piotr Kowalski. J'avais lu le premier numéro il y a longtemps et là j'ai rattrapé mon retard donc là c'est le numéro 6 qui vient de sortir. On suit le retour en fait d'un super-héros qui s'appelle Simon Cook, qui était une sorte de Batman qui avait essayé de ramener la paix sur un équivalent de Gotham, et à la suite d'un gros drame, et il a décidé de partir. Et après 7 mois, il revient et il reprend en fait en main son entreprise. Donc il est un petit peu comme Bruce Wayne, il est milliardaire. Et il a décidé, il a fait une promesse, il va pas reprendre son costume de super-héros. Par contre, il se rend compte que la vie a pas mal changé en 7 mois, puisque ses anciens super-vilains se sont soit un petit peu développés au niveau des bas-fonds de la ville. Il y a des némésis qui sont devenus un peu les chefs de gang. Et en fait, il se rend compte de tout ça et il se sent un petit peu impuissant. Il sait pas comment faire parce qu'il veut continuer à garder sa promesse de pas renfiler son costume. Donc il veut essayer de trouver une autre façon peut-être d'influencer la vie dans cette ville.
Il est cahier en vêtements civils.
Ouais, mais voilà, il veut pas faire ça non plus. C'est un titre que, franchement, je trouve très très bon, qui a une écriture très série télé, puisque, en fait, ils nous ont présenté toute une galerie de personnages au cours de ces 6 numéros, autour d'une dizaine de persos qui ont tous vraiment du fond. Il prend son temps, parfois ça peut paraître un peu lent, on sait pas trop où il va aller. D'ailleurs, on a du mal encore à déterminer exactement vers où il va aller, mais par contre, l'univers est vraiment riche et on sent qu'il y a un énorme potentiel. Graphiquement c'est très beau, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a des jeux aussi au niveau de la colo qui sont assez intéressants. Il y a des méchants très charismatiques, dont The Old Man, qui me fait penser un petit peu à un méchant tiré de Sin City presque, un vrai pourri avec le visage complètement aminci, hyper vieux mais hyper violent, hyper vulgaire. Donc voilà, on a des personnages qui avaient gravité autour du héros, mais dont on apprend les liens petit à petit, et on a surtout en fait cette relation qu'avait le héros probablement avec une de ses super vilaines, un équivalent de Catwoman. Ils étaient tombés amoureux mais ils se faisaient la cour tout en se pourchassant, et il essaye de jouer avec ça. Il la revoit, il la rencontre, elle a changé de métier. C'est vraiment intéressant. Le côté sexe, en fait, c'est vraiment parce que tout le côté un peu pourriture de la ville, ça s'exprime aussi par la montée en puissance de toute l'industrie du sexe illégal et compagnie. Et en fait, et aussi par le fait que finalement c'est assez cru. On voit les personnages chez eux en train de faire l'amour avec leurs copines, et c'est là où parfois ils ont des discussions les plus importantes et les plus profondes. C'est vraiment un titre intéressant. Voilà, moi c'est mon coup de cœur de la semaine et j'attends la suite avec impatience.
Ouais. D'accord. Bah écoute, tant mieux. Enfin, ça invitera peut-être certaines personnes à aller découvrir ce titre. Moi, je sais que
la
simple mention de Joe Casey, ça m'a dit non, quoi.
Peut-être attendre le TP qui sort et qui comprendra les 8 premiers numéros et qui coûtera uniquement $10. Voilà.
Comme toujours chez Image, des bons prix pour les premiers TP.
Et je l'ai lu, hein.
Tu l'as lu aussi ? Ah, pardon. Excuse-moi, je l'avais pas vu sur le conducteur.
C'est pour ça que là, je suis sur une autre planète après avoir entendu cette review. Mais alors, c'est vraiment, mais je peux pas faire plus contraire que la vie qui vient de donner. C'est-à-dire que
comme quoi.
Là, mais c'est, enfin, tout ce que t'as dit, c'est le contraire pur et purement de ce que je pense, quoi. C'est pas possible de faire pire.
Eh ben, repassez-vous la review et réécoutez-la, mais en changeant tous les mots.
Ouais, ouais, enfin, voilà, c'est ça,
Bizarro Bunny.
En gros, pour moi, les scènes de sexe, par exemple, sont totalement inutiles et ne servent pas le propos. C'est incroyable, d'ailleurs. Je comprends pas du tout où il veut aller. Je comprends rien du tout au message qu'il essaye de délivrer. Je vois aucun intérêt, au fait, à ce truc-là. C'est vraiment une purge pour moi de lire ça. C'est une torture. je lirai plus jamais cette série. Mais, non, franchement, c'est horrible, quoi. C'est un truc qui n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est pire que le pass. Je sais pas, quoi.
C'est, bon, on a compris, caché, c'est ton coup de cœur de la semaine, hein.
oui, non, mais moi, c'est, là, c'est le burn-it.
Retourne à tes
Tortues
Ninja, Bunny, arrête de me prendre la tête.
Oui, voilà. Bah, voilà, je pense que c'est la meilleure transition qu'on puisse faire. Les Tortues Ninja.
Le numéro 25, qui est sorti cette semaine.
Et oui, Teenage Mutant Ninja Turtle, en anglais, puisque, voilà, c'est quand même le titre original. De Kevin Eastman, toujours lui, et alors je sais plus comment il s'appelle, Waltz, mais c'est quoi son prénom, je vais retrouver ça.
Je ne sais pas. Tom, ah, peut-être.
Attends, il y a peu de chance. Mais si, Tom Waltz, oui, c'est ça en plus. Et il participe même au script.
Ça s'appelle Le Talent, monsieur.
Voilà, c'est bien. Ce don d'ubiquité. Non mais je plaisante. En tout cas, donc l'intrigue, c'est que Leonardo est passé du côté de l'ennemi. On l'avait eu en teasing il y a quelques mois. Donc il fait partie maintenant du Foot Clan. Il est aux ordres de Shredder, mais c'est au fait, enfin il est aux ordres. Il n'a pas été manipulé, c'est-à-dire que il a aussi ses raisons et on les découvre petit à petit. Et
il y a fétichiste des pieds.
Voilà, c'est ça. Totalement. C'est bien connu. C'est comme la main chez Marvel, ils sont fétichistes des mains, bien sûr.
Bien, et ça peut arriver.
Et oui, non, enfin, je pense d'ailleurs, mais je me demande d'ailleurs si c'est pas un clin d'œil à ça.
Non, la main.
Quoique, non, la main existait peut-être après.
Mais la main existait avant le Foot Clan, donc peut-être que le Foot Clan est un clin d'œil à la main, justement.
Oui, oui. Et voilà. Et donc, il y a plein de personnages qui ont été intégrés progressivement à la série. Alors, des personnages qu'on connaissait du dessin animé dans une version bien plus adulte. Hein. Là, c'est clairement pas non plus uniquement pour les enfants, loin de là. Et par exemple, il y a la petite fille de Shredder qui est devenue l'un des personnages récurrents de ce titre. Donc voilà, il y a beaucoup d'intrigues entremêlées. Alors les Tortues Ninja essayent de récupérer leur camarade qui est passé dans le clan adverse. Il y a une espèce de guerre des gangs qui se met en place. Il y a Splinter, qui part de son côté chercher de l'aide vers des anciens alliés ou anciens ennemis d'ailleurs. Et donc voilà, beaucoup de choses au fait. C'est très verbeux, mais dans le bon sens du terme. Et c'est toujours une lecture agréable. Et un titre vraiment qui se défend bien. C'est vraiment une bonne surprise. On voit que Kevin Eastman en a encore sous la pédale après tant d'années, puisque voilà, il a commencé quand même les Tortues Ninja au début des années 80, je crois.
Bah de toute façon, il en est le co-créateur. Hein.
Oui. Donc il a toujours des choses à raconter dans cet univers. Alors certes, qui a changé pour l'occasion, c'est un nouveau volume, donc tout n'est pas pareil, mais en tout cas c'est toujours très intéressant et très fun à lire. Une très bonne série indé chez IDW.
J'ai l'impression quand même qu'ils ont bien fêté le coup du numéro 25, hein, qui reste un numéro relativement emblématique dans le milieu du comics, hein, tous les 25, puisque bon, on a cette révélation du passage à l'ennemi.
Je suis pas certain que ça n'a pas été révélé avant, justement, ce passage à l'ennemi.
D'accord.
Mais parce que c'est un arc, alors je sais pas en combien il est exactement, mais je crois que c'est déjà la quatrième partie de cet arc, si je dis pas de bêtises.
Oui, mais peu importe. Enfin, je veux dire, tu peux très bien, même en plein milieu d'un arc, faire un gros turnover et fêter dignement le fameux numéro 25, quoi.
Non, il a déjà rejoint le clan adverse avant, mais en tout cas, bon. Un numéro assez riche en intrigues et en rebondissements, puis surtout une fin avec l'apparition de deux personnages bien connus de l'univers des tortues.
Ok, deux personnages, j'ai déjà une idée.
Ouais, qui apparaissent en disant rock'n'roll.
Ah, oui, bah c'est bon. Allez, passons à notre partie Marvel, c'est un bail, hein, bien sûr.
Oui.
Notre partie Marvel où l'on va terminer une mini-série, c'est Flo qui va nous parler de la fin de Thanos Rising.
Oui, je voulais en parler vite fait de cette mini-série parce que je crois pas qu'on en ait parlé du tout au Comics Weekly, à moins
à part
que
le
ça
premier.
M'ait échappé.
On avait parlé du premier, c'est tout.
On avait parlé du premier quand même. Pour vous dire
Non, puisque non, je dis des bêtises, puisque en fait, il était sorti la semaine du LCF où on n'avait pas fait d'émission.
Voilà, bah c'est ça.
C'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé.
C'est ça. Donc on n'a pas du tout parlé de cette mini que moi je trouve de très bonne qualité, qui a été un petit peu critiquée. Alors c'est scénarisé par Jason Aaron et dessiné par Simone Bianchi. C'est très bien dessiné par Simone Bianchi. Ce dernier numéro est arrivé un petit peu en retard d'ailleurs. Il était prévu pour plutôt début août, mais bon, voilà.
Mais il devait sortir avant Infinity en fait.
Voilà, il devait sortir avant Infinity pour préparer le lectorat au personnage de Thanos. En gros, cette mini en 5, c'est la genèse de Thanos, de son enfance jusqu'au fait qu'il débarque sur Titan pour buter tout le monde, et comment il devient fou, en fait. Et comment il tombe amoureux de la mort. Voilà. Donc c'est en fait un condensé, on va dire, de, je sais pas, d'histoires qui ont été faites avant sur Thanos, que moi justement je ne connaissais pas.
Il y a quelques ajouts aussi. Il y a quelques ajouts.
Il y a probablement quelques ajouts.
Pour boucher les trous que l'on ne connaissait pas forcément, ou même relier des points de continuité qui divergeaient un petit peu.
Mais je le trouve très sain d'esprit, moi, ce garçon. Hein, je comprends pas.
Ça, oui, tout va bien.
Oui, le fou, c'est simplement parce que c'est son surnom, The Mad Titan, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le personnage.
Ah bah là, à la fin, on se rend bien compte que c'est The Mad Titan. Mais déjà, tout au long de cette mini, je veux dire, il bute sa mère, il fait plein de choses assez horribles. Non, c'est une mini qui a bien évolué, parce que ça prend vraiment des départs jusqu'au fait qu'il arrive sur Titan, et enfin voilà, et l'achèvement de sa folie. Moi qui connaissais pas le personnage de Thanos, pour moi, c'est le meilleur point d'entrée, cette mini. C'est une très bonne lecture en 5 numéros. Ça se complète bien, vous pouvez voir Infinity après. Voilà, je connaissais pas du tout le personnage avant et je trouve que c'est bien. Peut-être que les gens qui ont beaucoup de bouteilles en comics, qui connaissent le personnage de Thanos, trouvent cette lecture un peu redondante. Je le comprends tout à fait, mais en tout cas pour un lectorat comme le mien, comme ce que je suis, je trouve ça très très bien.
Non mais honnêtement, excuse-moi, je vais te donner la parole Benny, mais les origines de Thanos n'ont pas été rappelées depuis tellement longtemps que ça fait jamais de mal, après autant d'années, d'avoir un petit coup de frais, quoi. C'est pas gênant.
Et puis c'est pas une mini écrite par des gras de papier, dessinée par n'importe quel parvenu, c'est quand même un truc avec le talent d'écriture de Jason Aaron tout de même. Il y a sa marque, ce qui fait que le truc est plus que lisible, quoi. C'est quand même très sympa à lire, moi j'ai vraiment aimé cette mini. Et voilà, pour vous familiariser avec le personnage de Thanos, pour moi c'est très bien. Donc ça sera une note bilan, pour moi c'est un buy cette mini.
Ça fera plaisir à tous ceux qui nous demandent de faire des bilans de TP ou de mini ou ce genre de choses là, ou d'arc.
Voilà, donc c'est une mini vraiment sympa, essayez de la choper en back issue si vous voulez vous mettre à Infinity maintenant et que vous connaissez pas Thanos, parce que c'est un bon moyen de se remettre à la page.
Sinon le TP arrivera bientôt. Tu allais dire Benny?
Non, j'allais faire une super blague, j'allais dire les bouteilles en comics, ça doit pas être très étanche. Voilà.
Ok, et on passe à la suite, donc c'est la sortie du New Avengers numéro 9, tie-in à Infinity, dont on vient de parler. Bruno?
Oui, alors c'est écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Mike Deodato. Plus que tie-in, hein, c'est vraiment, ça fait partie d'Infinity. Hein. Moi je dirais, les titres Avengers et New Avengers, pour l'instant, c'est vraiment presque essentiel à la lecture, je trouve.
C'est obligatoire, même, je dirais.
Ouais,
C'est marqué dedans. Hein.
C'est marqué dedans. En fait, ça commence au-dessus de Titan, avec un petit peu la suite de ce qu'on a vu dans Infinity. Thanos et ses généraux qui analysent les infos de leur espion. Et Thanos se rend compte, en fait, qu'une des gemmes de l'infini n'avait pas été détruite. Et il envoie donc ses généraux sur Terre pour mettre la main dessus, parce que même s'il n'a qu'une seule gemme, ça pourrait lui rendre à nouveau les pouvoirs d'un dieu.
Ouais, donc, Thanos est quand même une petite sous-merde, puisqu'on l'avait tous vu au moment de la lecture du comics, et que le mec, il a quelques mois de retard, hein.
Voilà, c'est ça. Et il découvre ça que maintenant. Après, on a un petit flash-forward et on arrive au présent avec l'invasion des troupes de Thanos et de ses fameuses troupes, de son Black Order, en fait, son groupe de 5 généraux. Et là, c'est très simple, en fait. C'est une présentation succincte des différents généraux. Avec leur caractère, leurs intentions, chacun s'en prend à un des membres des Illuminati, ce soit Reed Richards et Iron Man, on a le professeur Strange, on a T'Challa, on a
voit. Il est juste docteur, hein.
Oui, docteur. Ouais.
J'aime bien pareil. La merde.
Et donc on a droit un petit peu aussi à une évaluation de leur pouvoir, de leur force. Et c'est très bien amené, moi je trouve, puisqu'ils ont, on voit tout de suite qu'ils ont chacun des intentions très différentes les uns des autres. Il y en a qui suivent, il y en a qui ont des initiatives, il y en a qui veulent bien se faire voir auprès de Thanos, et on a droit à des scènes d'action plutôt intéressantes avec bah, surtout les dessins de Deodato qui sont sublimes. Voilà, des retournements de situation avec les membres des New Avengers. Un super numéro. Franchement, moi j'ai pris mon pied et pour l'instant Infinity ça sent vraiment très bon. Je sais pas ce que t'en as pensé, Steve, de ce numéro.
Bah écoute, moi je l'ai trouvé très bon aussi. On a, comme tu l'as dit, hein, cette présentation des cinq membres de la force de Thanos, la Thanos Force. Je trouve que ça claque comme nom comme ça.
Ouais,
Et
les culots obsidiennes. Voilà.
et surtout, eh bien, on voit ce qui va se passer pour les Illuminati qui vont encore une fois exploser. C'est véritablement un groupe qui ne peut pas rester soudé plus de 5 minutes, puisque certains vont commencer à passer des marchés étranges. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt intéressant et ça donne envie d'aller lire la suite. Donc
Ouais.
non, franchement, moi j'ai vraiment apprécié avec toi cet épisode. En plus, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est magnifiquement servi
Ah
par un Mike
c'est
Deodato.
sublime.
Enfin, je veux dire, il est
Il est au
voilà,
top, hein.
c'est très très propre. Rien à dire, quoi. Et
Il
puis, les personnages sont quand même dans la merde. Ces personnages qui sont si puissants, si balèzes. Alors, certains s'en sortent mieux que d'autres. D'autres sont vraiment dans le caca à la fin. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de lire la suite. Et pour le moment, ça se tient. J'avais peur qu'avec ces parties de tie-in à Infinity dans les séries principales, ce soit un peu longué. C'est vrai qu'on a été habitué à du Bendis qui nous rendait la chose très longue, très lente. Et là, finalement, il se passe vraiment des trucs importants pour la suite. Donc
Ouais, et
ça,
pour
c'est
l'instant,
plutôt cool.
ça se tourne vraiment sur Avengers, ce qui se passe dans l'espace, et New Avengers avec du coup les Illuminati. Donc c'est quand même très logique et finalement très bien amené. Donc gros bail pour ma part.
Bah, pareil pour moi, gros bail, très bonne série, enfin très très bonne début d' très bon début d'event, je vais y arriver. Et pour moi, très très bonne série que New Avengers. Gros bail. On va passer à la suite à Mister Honey Bunny qui va nous parler d'un titre que j'aime beaucoup moins, mais qui peut-être me fera changer d'avis sur cette review du Uncanny X-Men numéro 11.
Ouais, Michael Bendis est au scénario, Fraser Irving est au dessin. Alors Fraser Irving, déjà, je vais commencer par lui. Moi, je suis pas fan forcément de son style. Ça tranche énormément avec
Bacalo.
le oui, enfin avec le reste de ce qu'on a pu voir sur le titre jusque-là, je trouve. Même Bacalo était plus lisible. Enfin, c'est pas qu'il était plus lisible, c'est que je sais pas. Ça correspondait peut-être mieux à cette ambiance.
T'as jamais vraiment aimé, toi, le style de Fraser Irving, même sur les Batman ou trucs comme ça?
Non, 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 non. Je pense franchement, c'est le genre de mec que je verrais bien sur un truc vraiment indé, mais
C'est bien un
sur du
mec,
mainstream.
c'est un mec que je verrais bien sur un comic que je ne lis pas.
Voilà, par exemple, il serait tellement mieux. Je suis sûr que ça lui ferait du bien. Mais non, mais enfin, alors là, l'histoire, c'est très simple. Une espèce de sentinelle super améliorée, la sentinelle de la mort qui tue, la sentinelle ultime,
Nemrod, quoi.
encore pire que tout, enfin je sais pas,
Oh
c'est la,
putain.
la, la suprême sentinelle, je sais pas comment l'appeler, encore une nouvelle sentinelle, voilà, arrive pour dégommer l'équipe de Cyclope, et Cyclope en a ras-le-bol à chaque fois de voir une sentinelle débarquer, et là au fait il est, c'est un quand même un long monologue de Cyclope qui voilà, qui montre vraiment qu'il en a assez de toutes ces conneries, que ça fait 36 000 fois qu'on se tape la sentinelle qui vient les exterminer. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu schizophrénique parce que l'histoire est écrite par Bendis. Donc si Bendis en a marre que les X-Men se fassent trucider par une énorme sentinelle, il n'a qu'à pas l'écrire. Et puis voilà,
En
ça
même
arrangerait bien
temps,
les choses.
tu as donné une phrase qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est que tu as dit c'est un long monologue de Cyclope. Je vais faire le gros troll, mais quand est-ce qu'un comic écrit par Bendis n'était pas un long monologue? Voilà.
Oui, oui,
J'avais
oui.
envie de la placer juste pour troller, pour que les gens se déchaînent en commentaire,
Certainement, certainement.
parce que les gens aiment
Non, mais
beaucoup.
là, il décrit en plus donc Cyclope, la réaction des autres membres de son équipe face à cette énorme sentinelle. Donc, franchement, c'est pas un épisode utile. Par contre, on voit bien que cette sentinelle est envoyée par quelqu'un, un ennemi étrange, masqué, qui visiblement sera le grand ennemi de cet event qui arrive là tout de suite après, hein,
Battle
Battle of the Atom.
of the Atom, ouais.
Voilà. Dont le Uncanny X-Men numéro 12, le prochain, sera déjà la quatrième partie de cet event qui rassemble les All New X-Men, X-Men et Wolverine and the X-Men également.
C'est prévu pour le mois de septembre? Je croyais que c'était prévu pour le mois d'octobre.
Ça commence la semaine prochaine.
Ah bah non, tu vois, j'avais un mois de... J'étais persuadé que c'était dans deux mois en fait, enfin que c'était au mois de mois d'octobre quoi. Bon bah finalement ça fait des choses à ajouter sur la liste de la semaine prochaine.
Ouais. Non mais moi par contre ça m'intéresse plus cette intrigue qu'Infinity. Enfin voilà, je serais plus intéressé par l'intrigue de Battle of the Atom. A priori.
D'après vous qui les lisez régulièrement ces deux séries X-Men de Bendis, est-ce que le crossover, enfin l'event, non c'est un cross. Est-ce que le cross pourra être lu par quelqu'un qui ne suit plus les séries de façon régulière depuis déjà quelques mois?
Oh, je pense oui. Oui, je pense. Je pense qu'ils ont aussi bien adapté le truc pour que les gens qui ne lisent plus Wolverine and the X-Men et X-Men, ce qui est mon cas, comprennent bien ce qui se déroule, quoi. Là, je pense qu'on va avoir un cross à la ce qu'ils avaient fait avec Messiah War. Non, Messiah Complex. Oh, je sais plus. Le dernier.
Messiah Trilogy, ouais. Enfin.
Oui, voilà. Enfin voilà. À la rigueur, on pouvait y revenir et comprendre un petit peu ce qui se passait.
Bah tant mieux. Bah ça me donne envie d'aller au moins aller voir le premier pour voir de quoi ça va parler, quoi. Tu étais le seul à l'avoir lu, hein, je crois, ce Uncanny X-Men numéro 11, donc ta note finale.
Oh, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus vraiment utile, donc un bon check-it, on va dire.
D'accord. Eh bien, on va passer à une autre série Uncanny, c'est la série Uncanny Avengers, c'est le numéro 11 aussi, scénarisé par Rick Remender avec des dessins de Daniel Acuña. Comme d'habitude, Uncanny Avengers, c'est une série qui se lit en 20 minutes. Ça parle énormément. Ce que je trouve très bien, parce que de toute façon, pour le prix, au moins, on se sent pas floué. Et c'est surtout le numéro des réponses. Ce que je disais en intro, on a énormément de réponses à toutes les questions qu'on pouvait se poser avec le plan de ces deux enfants de Archangel, le plan de Kang, le plan du Red Skull, ce qu'est, en tout cas, une partie de ce qu'est ce Red Onslaught. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on voit surtout, puisque dans le dernier épisode, on avait ces quatre nouveaux cavaliers morts, puisqu'il y a quatre morts maintenant. Je le rappelle, hein, c'était Sentry, le Moissonneur, j'ai oublié son nom, le Grim Reaper, voilà, qui revenait aussi en mort. On avait, j'ai un trou, Daiken. Et le dernier, c'était, mais me reviens pas, Benny, si tu peux me filer un coup de main.
Banshee, non?
Banshee, voilà, Banshee, merci, ouais. C'est ça. Banshee, voilà, c'était le dernier. Donc, ces quatre cavaliers morts qui avaient foutu une espèce de grosse branlée à certains des membres des Uncanny Avengers qui s'étaient trouvés sur leur chemin. Et on va voir ce qui leur arrive, et ce ne sont pas des choses très joyeuses. Voilà, je vais pas en dire trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de spoils potentiels. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des réponses. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Benny.
Justement, c'est pas mal. Je trouve ça juste un peu lent dans la narration. Je trouve qu'il a un petit peu du mal à raconter ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire que c'est toujours très verbeux et peut-être que ça gagnerait à être un peu plus fluide, quoi. Parce que là, franchement, ils expliquent bien leur intention, mais. Mais bon, enfin, je veux dire, il y a une manière plus simple de le raconter, je pense. Là, c'est vraiment sur des pages et des pages, les grands méchants qui expliquent leur grand plan ultime. Et
sont-ils méchants?
Je dis les grands méchants parce que bon, c'est une vision très, comment dire.
Non, mais c'est l'impression que ça nous donnait, c'est sûr. Mais vu maintenant le plan que l'on a, qui nous est dévoilé dans cet épisode-là. Sont-ils encore méchants? Peut-on les considérer comme des méchants ou pas? Justement, je pense que c'est ça l'intérêt aussi de ce qu'il essaie. C'est ce qu'il essaie de nous faire passer, en tout cas, dans son scénario, Monsieur Rick Remender.
Oui, mais enfin, de toute façon, ils essayent de ménager, on va dire, la chèvre et le chou, mais on sent très bien que de toute façon, c'est pas possible et que ça va complètement partir en live, quoi. Puis de toute façon, il y a qu'à voir les manières qu'ils emploient pour arriver à leur fin.
Ah bah oui, voilà.
C'est pas possible, quoi. Donc voilà. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de révélations. Je suis juste un poil déçu du fait que bon, on comprend ce qu'il veut faire, mais il n'y a pas eu au fait. Je pense qu'il aurait pu faire intervenir peut-être un personnage qu'on n'aurait pas vu arriver jusque-là, quoi. Enfin, je sais pas.
En même temps, il nous replace des éléments de son run d'Uncanny X-Force, hein, donc c'est vrai que c'est comme nettement un plus de l'avoir lu. On peut s'en passer, mais ça aide à la compréhension de certains concepts, notamment le concept de tabula rasa.
Ouais, bah c'est peut-être ça d'ailleurs le problème au fait, c'est que c'est totalement dans la continuité de d'Uncanny X-Force au point que c'est, enfin quand je lis ça, moi j'ai l'impression de lire la suite d'Uncanny X-Force.
Bah, c'est peut-être pas plus mal vu que l'Uncanny X-Force actuel est pas non plus très très bon quoi.
Ouais, mais par contre j'ai plus l'impression toujours de lire un titre X-Men plus qu'un titre Avengers. Les Avengers sont là, enfin une partie, mais j'ai l'impression qu'ils font plus de la figuration. C'est comme si on avait, tu sais, quelques Avengers qui font des apparitions dans un titre X-Men.
Ouais,
mais
c'est peut-être justement son habitude d'écrire des personnages X-Men, notamment dans Uncanny X-Force.
Ouais, ouais.
Et puis, il nous replace aussi le Red Skull, parce qu'on se demandait un peu ce qu'il était devenu après ce premier arc. Hein, et donc, on voit la suite de son plan. Ça aussi, ça m'a bien plu. J'ai trouvé l'idée plutôt pas mal. L'idée du plan du Red Skull finalement.
Ouais. Oui non mais il suit ses intrigues, c'est une continuation logique, voilà. Reste que je trouve sa narration un peu plus laborieuse, moins fluide que ce qu'il arrivait à produire sur Uncanny X-Force, bizarrement.
Bah, moi personnellement je préfère, tu vois, des deux. Mais les deux points se défendent quoi. Et puis Daniel Acuña, je pense que là par contre on est d'accord, c'est superbe.
Oui, Daniel Acuña est toujours très bon.
J'ai eu très très peur.
Daniel Acuña est toujours très bon, ouais.
Donc pour moi c'est un gros bail, hein, ce Uncanny Avengers.
Vous me donnez vraiment envie de lire cette série du coup. J'avais vraiment lâché le truc au premier arc, mais finalement ça a l'air bien.
Bah, surtout si tu as aimé Uncanny X-Force, hein, vraiment c'est la digne suite, hein, vraiment. Benny, un bail aussi pour toi ?
Un petit bail, plus réservé, mais bail quand même quoi.
Et on va terminer avec toi, la dernière review de la semaine, c'est le Scarlet Spider numéro 21, une série dont on ne parle pas assez.
Alors, une série dont on ne parle pas assez parce que je dois dire que je la trouve toujours un peu faiblarde. Il y a de bonnes idées, mais c'est juste que Chris Yost, peut-être qu'il manque avec son, enfin peut-être que son partenaire de toujours, Greg Kyle, lui manque un petit peu sur ce titre, je sais pas. En tout cas là, il est accompagné de Eric Burnham au scénario. Les dessins sont de Carlo Barberi et de David Baldeon, je sais pas comment le prononcer.
Moi non plus.
Pourquoi j'ai lu ce titre? Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Scarlet Spider. Eh bah, tout simplement parce que sur la couverture, c'est marqué, vous l'avez demandé, c'est le retour de Ben Reilly, l'original. Et c'est ça qui est ouf, Marvel l'a fait. Mais alors, je comprends pas comment ils peuvent l'avoir réintégré dans un si petit titre en faisant aussi peu de communication, alors que c'est quand même un truc énorme.
Parce que je sais que je vais peut-être énerver certaines personnes, mais parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les titres Spider-Man sont trustés par le chef de la mafia Dan Slott, qui a la main mise sur tout ce qui est Spider-Man. Et que lui, de toute façon, il n'y a que son supérieur Spider-Man qui compte, et donc le reste, il en a rien à foutre.
Non mais Steve, je voulais faire une blague, Ben Reilly ne revient pas. Voilà.
mais ça n'empêche pas que je pense tout à fait ce que je viens de dire. Aujourd'hui, oui, oui. C'est vraiment Dan Slott qui, beaucoup plus que son éditeur d'ailleurs, qui dirige la destinée de Spider-Man.
C'est vrai que il y a eu très 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 peu, je trouve, beaucoup trop peu à mon sens, d'interaction entre Spider-Man et Venom d'un côté et Scarlet Spider de l'autre. Vraiment, je trouve qu'on aurait pu faire un truc, un crossover même Amazing Spider-Man.
C'est arrivé la semaine dernière avec le Spider-Man Team-Up, en fait. Où il y avait
Team-Up
et après Scarlet Spider, quoi.
Ce serait bien que ça arrive dans la série, j'allais dire Amazing Spider-Man en plus, puisque je suis resté là-dessus.
Supérieur
Spider-Man, du coup. Mais voilà, ce serait vraiment pas mal. Serait logique.
Moi, je suis partisan comme toi, hein, d'un crossover entre les trois titres. Ça aurait été plutôt sympa, une petite aventure. On a eu le crossover Venom Scarlet Spider qui se passait dans le Microverse à la poursuite de Carnage, qui s'appelait Venom Carnage, et qui était pas si mal que ça, malgré le nom pourri. C'était plutôt bien vu. Et c'est dommage qu'on ait pas eu une interaction de Spider-Man. Enfin, je veux dire, Spider-Man avec Venom et avec Scarlet Spider, qui n'est ni plus ni moins que son clone, il y avait des potentiels d'histoire monstrueux, mais comme je dis, Dan Slott en a rien à foutre. Lui, c'est son Docteur Octopus, quoi.
Mais je trouve ça dommage, parce que, voilà, la série pourrait être pas mal, cette série Scarlet Spider. Il y a de bonnes idées, mais je sais pas, on a l'impression que peut-être que Chris Yost en avait résigné, et du coup, fait ça un petit peu à la va-vite, du coup, puisqu'il sait que c'est un petit peu la dernière roue du carrosse de l'univers Spider-Man. Bon, voilà, le final est sympa, Donc on comprend pourquoi il y a ce Ben Reilly et qu'est-ce que c'est exactement. C'est pas mal, ça me donne envie de lire la suite, mais bon, c'est voilà, ça pourrait être tellement mieux que bon. Je vais dire que c'est un petit bail, voilà, un petit bail d'encouragement.
Mais moi, ce qui me dérange, c'est combien de temps va-t-il rester à cette série, puisqu'on sait que sa série sœur Venom s'est arrêtée. Enfin, ça a été confirmé. Le dernier numéro sort en octobre. À mon avis, Scarlet Spider ne fera pas de vieux os non plus.
À noter qu'en novembre, il y aura un Superior Spider-Man avec du Venom et peut-être aussi du Scarlet Spider. Donc peut-être que votre désir sera réalisé bientôt.
Ouais, mais par Dan Slott, ça n'augure rien de bon, quoi.
C'est co-écrit par Dan Slott et Christos Gage. Donc à voir.
Et qui tiennent tous les deux le Superior Spider-Man et non pas les autres titres.
Ouais, c'est vrai.
Bon, après, voilà, on jugera sur pièce, hein, comme d'habitude. C'est tout pour nos reviews de la semaine. On va passer maintenant à la liste des TP sortis cette semaine et j'espère qu'il vous reste beaucoup d'argent parce que vous allez en dépenser cette semaine. On commence avec le Absolute Superman Batman volume 1 qui comprend les 13 premiers épisodes de cette série Superman Batman scénarisé par Jeff Loeb avec des dessins de d'Ed McGuinness notamment. On avait aussi du Pat Lee ou du Michael Turner, les 13 premiers épisodes pour le prix de $100.
Ouais, c'est la
blague pas.
Oui, la non, blague. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ah ouais, mais attention, ça va être édition luxueuse, hardcover.
Ouais, mais bon.
Alors l'équivalent en TP, ça vaut 25 €. Voilà.
Comment ça dénonce, putain.
Non, mais même, on est quand même dans un, enfin, je sais pas, c'est un petit peu la crise pour tout le monde. Et un bouquin aussi beau soit-il à $100 avec aussi peu de lecture, je suis désolé, mais le temps que tu vas mettre là-dedans pour le lire.
C'est l'inflation des absolutes là, parce qu'en général c'était plutôt autour de $75.
Ouais, enfin,
là, c'est la vache quoi, $100.
Et... C'est vraiment abusé, je trouve.
Mais bon, surtout en plus, quand on voit ce que l'on va continuer d'annoncer hein, qui sort cette semaine à des très gros prix, vaut mieux garder son argent pour autre chose. Continuons avec le Jack Kirby's Omak qui va reprendre les travaux de Jack Kirby sur Omak, hein, tel son nom l'indique. Si vous voulez redécouvrir ce personnage tel qu'il a été créé à l'origine, le One Man Army Corps, hein, c'est ce qui veut dire Omak, c'est un TP qui vaut $19,99, qui comprend 176 pages avec du Jack Kirby.
Sa création.
Ouais, voilà. Ouais. Et voir ce que Dan Didio en a fait par la suite. Oh, tellement de méchanceté, tellement de méchanceté. Continuons avec la sortie du premier volume de Talon, enfin, qui sort enfin avec les épisodes 0 à 7. C'est scénarisé par James Tynion IV avec un co-scénariste au moins pour les premiers épisodes de Scott Snyder et des dessins de Guillem March et de Juan Rose Rip. Ça vaut $16,99 pour ces 8 premiers épisodes, c'est pas très cher.
Et c'est
même
pas
9.
Mal.
Il y a 9 épisodes même. Parce que, non, oui, non, pardon, oui, pardon. Autant pour moi. Oui, il y a 8. Oui, c'est une bonne série en plus. Donc, ça démarre doucement, un peu durement, mais par la suite, ça devient très très bien.
Bah, disons
quand on a lu,
français.
Ouais, ben voilà, c'est ça. Et quand on a lu le premier arc en entier, on a vraiment tous les enjeux de la série. Ça prend un peu de temps à être annoncé, c'est vrai. Ça prend 4-5 épisodes à avoir des réponses, mais alors une fois qu'on les a, on comprend tout. Et là, par contre, c'est vraiment parti pour du bon, quoi.
Ouais, c'est toujours très bien.
Et puis c'est très beau en plus, hein. Guillem March et Juan Rose Rip, hein. C'est très classe. Une autre série qui ne sort pas en français et qui, elle, cette fois-ci aux États-Unis, n'a pas marché non plus, c'est le premier TP de Sword of Sorcery, Amethyst, avec du Christy Marks, Tony Bedard et Marc Andreyko pour la partie scénario et du Aaron Lopestri, Rezus 16, Claude Saint-Aubin et divers encreurs pour la partie graphique. Ça fait 320 pages, ça vaut $24,99. Ça reprend toute la série, c'est-à-dire le numéro 0 à 8, qui était le numéro final. Une série qu'aucun autre que moi n'a lu, je crois.
Si j'ai lu, c'était plutôt sympa. C'est à noter qu'il y a quand même aussi le DC Universe Present 19, qui faisait la conclusion de l'histoire avec le gars un peu de nordique, là.
Oui. Ah oui, bon, c'était une histoire qui était franchement dispensable. Hein.
Voilà, mais bon, au moins ils l'ont rajouté dedans, ça c'est pas mal.
L'histoire de Beowulf, ouais, mais c'était voilà, franchement c'était dispensable.
C'était Tony Bédard, c'était pourri.
Oh, il fait pas que des mauvaises choses, mais là c'était pas bon par contre.
C'était pourri.
Passons à un produit que tu nous as dégoûté à la dernière seconde, Bruno, en nous ajoutant sur le conducteur ce que j'étais passé à côté. Le DC Super Pets Character Encyclopedia Young Reader.
Voilà, donc on a parlé de Franco et Balthazar déjà, et là c'est leur côté, c'est leur boulot sur les personnages DC, et donc là ils référencent plus de 200 animaux qui ont accompagné les super-héros et les super-vilains de chez DC Comics dans une très belle édition. Vraiment un bel objet, pas très cher, parce que ça coûte que 8$.
Ouais.
Et voilà, il y a de belles illustrations. Vous découvrirez tous les animaux des différents personnages de DC.
Et c'est quelque chose que je vais m'empresser de commander, parce que moi j'étais vraiment passé à côté. Tu m'aurais pas dit que ça sortait. Enfin voilà, je le savais pas, quoi. Et ça, j'adore. J'adore complètement. Passons à du Vertigo maintenant, avec la sortie du volume 6 d'Hellblazer en nouvelle édition, qui va reprendre des épisodes 47 à 61 pour le prix de 20$. Il y a 400 pages. Ça, c'est autre chose que le Absolute Superman Batman.
Ça, c'est immanquable. J'en avais déjà parlé auparavant, parce que je suis Hellblazer. Ça, c'est l'édition qui reprend depuis le numéro 1. Et donc là, on a la suite du run de Garth Ennis dessus. Donc c'est absolument immanquable. Il y a énormément d'épisodes pour 20$ avec que du Garth Ennis. Voilà. Si vous voulez retrouver le premier arc de Garth Ennis, c'est dans le volume 5. Ne manquez pas cette édition. C'est absolument génial.
Avec le dessinateur préféré de Bruno, Steve Dillon.
Notamment du style,
ouais,
entre
ouais.
autres.
Ouais, bof.
Mais je confirme, c'est vraiment génial. C'est vraiment du très grand art, hein, Garth Ennis sur Hellblazer.
C'est le premier travail de Garth Ennis chez un éditeur américain.
Continuons toujours avec du Vertigo et un autre scénariste anglais, puisqu'il s'agit d'Alan Moore. C'est l'Omnibus League of Extraordinary Gentlemen qui va reprendre les deux premières histoires, les deux premières mini de cette équipe de personnages tirés de la littérature. Ça vaut 29,99$ pour 416 pages, c'est vraiment pas très cher non plus.
Non, c'est la version souple du Deluxe qui a été sortie il y a quelques temps. Donc oui, c'est immanquable, c'est les deux mini-séries immanquables de... Donc c'est sans League of Extraordinary Gentlemen Century. C'est vraiment le cœur de cette série, quoi.
Ouais. Avec des dessins de Kevin O'Neill, hein, j'avais oublié de le préciser, pourtant Dieu sait que ces dessins sont très très bons.
Ah putain, c'est immanquable.
Et enfin, si vous voulez mettre vraiment de l'argent dans quelque chose, c'est ça qu'il faut acheter cette semaine. Le Sandman Omnibus Volume 1, on en avait parlé quand ils avaient été annoncés dans le Weekly News, et il est enfin sorti, qui reprendra les épisodes numéro 1 à 37, ainsi que le Sandman Special numéro 1, 1040 pages, $150.
La vache.
Ouais, mais 1040 pages.
Donc ce sera en deux volumes, c'est ça ?
C'est ouais. En deux volumes, exactement. Exactement, vous pouvez avoir la complète de Sandman pour $300 dans une superbe édition. Vraiment, mais là c'est totalement immanquable, quoi. Pour moi ça bat même l'édition d'Urban qui pourtant est très bonne, hein.
Si vous lisez pas en français, prenez ça. Ou la version slipcase avec tous les TP de Sandman dedans, mais là c'est vrai que c'est une plus belle édition.
Ouais, et puis surtout si vous prévoyez pas de partir en vacances avec, parce que là c'est intransportable ce truc.
C'est lourd.
C'est clair. Le seul reproche que l'on peut faire à ce bouquin, c'est qu'ils ont augmenté le prix de $25 deux semaines avant la fin, puisque à la base il devait sortir à 125.
Les bâtards.
Oui, ouais. Les bâtards. Ouais. Là oui, clairement. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont pas vendre assez de Absolute Batman Superman, alors ils compensent. Ouais, je sais, je suis salaud, mais quand même. Là, deux semaines avant la sortie, changer le prix, je trouve ça un petit peu abusé. Passons à autre chose que du DC maintenant. Chez IDW sort le Steve Ditko Monsters volume 2, on avait déjà parlé du premier, qui cette fois-ci va reprendre Konga. Konga, c'est un King Kong, hein, tout simplement. Ouh, ça vous laisse complètement sans voix.
Bah, je connais pas du tout, quoi, en fait.
Et si vous voulez découvrir les travaux de Steve Ditko quand il ne bossait pas chez Marvel, qui bossait sur des projets un peu plus indépendants, et bien voilà, c'est du Steve Ditko à son meilleur en termes de graphisme. Ça vaut $35 et il y a 328 pages. Continuons avec, pour ceux qui aiment les jolis livres avec des dessinateurs. Là, c'est vraiment très particulier, donc vraiment à feuilleter ou ne commander que si vous connaissez bien cet artiste et que vous l'aimez. C'est le Visual Funk Jim Mahfood. Un hardcover qui va reprendre une bonne partie de la carrière de Jim Mahfood, ce qu'il a pu faire. Ça vaut $50, c'est un artbook. Ça fait 250 pages.
Touche pas à Mahfood, j'ai faim.
Oh putain.
Voilà. Et, par contre, c'est très particulier, hein, justement.
Ah oui. Oui.
Ça fait partie de ces artistes que tout le monde ne va pas aimer. Hein. C'est un truc, voilà.
Ah, il y a même des photos de ces graphes et tout. Enfin,
tu m'as fait peur.
C'est très complet.
Oui, voilà, ça ne reprend pas que ce qu'il a fait sur le comics. Hein. Ça reprend toute sa carrière aussi, ce qu'il a pu faire pour l'industrie de la pop culture, pour le cinéma, pour l'animation, pour la pub, etc., etc. C'est vraiment, si vous aimez Jim Mahfood, que vous avez vraiment envie d'avoir un super barbou qui reprend un petit peu l'ensemble de sa carrière. On continue avec Marvel. Et alors là, la blague de la semaine, plus cher que Sandman, plus cher que Absolute Batman Superman, et voire même plus cher que les deux réunis. Si vous voulez, le All New X-Men numéro 1 de Brian Michael Bendis, en version Dynamic Forces, hein, qui font des superbes covers à un prix qui va vous trouer votre compte, signé par Stan Lee,
eh
bien ça vaut
cher, hein.
$400.
Ouais, voilà.
Shit. $400 pour
quoi
un truc signé par Stan Lee. Surtout un truc comme All New X-Men 1. À noter que cette semaine, nous avons aussi la sortie au même prix. Hein, de, je le retrouve, je n'arrive plus à le retrouver. Il y en a un deuxième. Voilà, c'est le Iron Man numéro 1, version donc Kieron Gillen. Donc en plus, quelque chose de magnifiquement bon. $300 aussi. $400 aussi, pardon.
Simplement parce que c'est signé par Stan Lee. Parce que moi, j'ai des trucs signés par Stan Lee qui sont moins chers que ça. Enfin, à l'époque, j'ai l'impression que plus les années passent, plus on sent que la fin est proche. Je suis désolé de le dire comme ça, mais et que plus on se dit bon bah faisons monter le prix parce que bientôt il y en aura plus quoi.
Bah, mais déjà c'est Dynamic Forces, hein, donc forcément toutes les covers sont super chères.
Ouais, mais d'accord, mais bon moi j'ai eu des bouquins signés par Stan Lee, j'en ai deux je crois d'ailleurs signés par Stan Lee. Maximum c'était une centaine d'euros.
T'as fait signer
maximum.
Batman j'espère.
Non, c'était des bouquins déjà signés comme ceux-là. Il y a notamment un gros bouquin sur Spider-Man. Et voilà, mais c'était une édition variante signée par Stan Lee, mais ça devait coûter une centaine d'euros quoi, tout cassé. Donc en plus, c'était un gros livre, c'était pas un petit comic de quelques pages quoi, comme c'est le cas là.
Mais All New X-Men, c'est une future pierre angulaire du comics.
Ouais. Et alors à noter que si jamais vous voulez, parce que Marvel n'a pas sorti que ces deux numéros-là, ces deux numéros 1 du Marvel Now cette semaine en version Dynamic Forces, ils en ont sorti d'autres, signés par d'autres personnes, et c'est là qu'on voit la différence de prix. On a par exemple le Fantastic Four, ainsi que le FF. Le Fantastic Four est signé par Matt Fraction, le FF est signé par Michael Allred. Ça vaut que $20.
Ouais. Mais
ah
ça
oui,
c'est tous les mois, hein, y a du Dynamic Force avec des signatures.
Ça vaut le coup.
C'est un business,
ça vaut le coup.
Quoi. Après ils font des promos Noël coup, aussi où tu t'achètes des packs pas chers et tu sais pas ce que tu vas avoir dedans.
Oui, mais ce que je veux dire c'est que les mettre en comparaison la même semaine.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Voilà, du Michael Red ou du Matt Fraction ne valent que $20 et du Stan Lee ça vaut $400.
Ouais, moi qui voulais Justice League numéro 1.
En même temps ça fait un beau cadeau.
Je suis dégoûté.
Ouais. Attends, mais en même temps, ça fait un beau cadeau pour qui aime Allred, par exemple. Voilà, de $20, c'est cool, quoi, d'avoir un exemplaire signé.
C'est clair. Et puis FF1, en plus, était très bon. De même que le Fantastic Four 1 était pas mal du tout. Hein. La série est devenue un peu moins bonne par la suite. Continuons avec du bon Stan Lee cette fois-ci, puisque c'est la sortie du Amazing Spider-Man Omnibus volume 1. C'est du hardcover. Nouvelle édition, ça vaut $100. Donc encore un produit à $100, il y en a vachement pour les grosses bourses hein, cette semaine, avec le Amazing Fantasy 15, le Amazing Spider-Man 1 à 38, l'Annual 1 et 2, le Fantastic Four Annual numéro 1 et le Strange Tales Annual numéro 2. Voilà. Donc là, au moins pour $100, on a du contenu. C'est pas le Absolute Batman Superman sur lequel on va revenir toute la soirée.
La blague.
Pour ceux qui ont envie de découvrir le personnage de Magic que l'on peut voir au casting de Uncanny X-Men, notamment écrit par Brian Michael Bendis et qui ne connaîtrait pas très bien le personnage, Marvel a la bonne idée de ressortir en TPB le Uncanny X-Men numéro 60 ainsi que la mini-série Magic qui était parue en 1983. C'est du Chris Claremont avec des dessins de Brent Anderson et de Brett Blevins. Ça vaut $17, un bon petit TPB qui vous donnera les bases pour comprendre ce personnage qui est assez difficile à comprendre quand on ne le connaît pas très bien. Quelqu'un l'avait lu cette mini-série à l'époque ?
Pas du tout.
Elle était même sortie en RCM. Non ? Bon, bah, ça vous dit rien. En tout cas, c'est une bonne lecture, c'est du bon Chris Claremont et ça vaut pas très cher si vous voulez vraiment découvrir ce personnage. Et encore moins cher pour découvrir un autre personnage qui a le vent en poupe en ce moment, c'est Rocket Raccoon Tales from Half-World dans cette collection que Marvel fait à $8 avec des reprints de vieux matériel qui vous permettent de découvrir des nouveaux personnages. On a vu Star-Lord il y a pas très longtemps. Et bien voici la mini-série Rocket Raccoon de 1985 pour $8. Ça vaut plutôt
super.
Le coup. C'est du Bill Mantlo au scénario avec des dessins de Mike Mignola.
Eh oui,
en plus.
Très très sympa. Pas cher et complet.
Enfin, on termine sur deux gros bouquins, deux Marvel Masterworks, il y en a deux qui sortent cette semaine. Le Fantastic Four, volume 15 en hardcover, ça vaut $70, avec Fantastic Four 151 à 163, le Giant Size Fantastic Four 3 et 4 et le Marvel Treasury Edition numéro 2. Et pour moins cher, puisque là cette fois-ci c'est du TPB, le Marvel Masterworks Incredible Hulk volume 3, ça vaut $25 et ça reprend le Hulk 102 et du matériel, donc des histoires de Tales to Astonish où il y avait Hulk 80 à 101. Donc des bons moyens de découvrir des vieux comics que l'on trouve plus facilement aujourd'hui. C'est pour les vieux comme nous.
Ouais, tout à fait.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette émission vous aura plu. Et comme d'habitude, vous nous retrouverez sur Facebook, sur Twitter, sur le site. Bien évidemment, vous retrouverez tous les articles ainsi que tous les autres émissions. Et puis, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr ou bien sûr, laisser vos avis dans les commentaires. Mr. René Bunny, Flo, Bruno, merci à vous.
Bah oui, pas de rien.
Merci à vous.
C'était un plaisir.
Oh, vous voyez moi. J'aime ça. Ça m'érectionne. voilà comment j'ai créé une émission qui était bien menée, tu vois.
Dans ces moments-là, faut tous se taire et se barrer.
On vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine dose de review avec du gros qui débarque pour ce début du mois de septembre, le début du crossover Battle for the Atom. Merci Yoni de m'avoir rappelé que c'était au mois de septembre.
Forever Evil, Infinity 2.
Forever Evil, Infinity. Il va y avoir du très très lourd pour ce mois de septembre et déjà cette première semaine. À la semaine prochaine et amusez-vous bien.
Ciao. And you're heading up to Brisbane.